invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver avec Serge Laïc pour le second volet d'une émission consacrée à son ouvrage « Les arrangeurs de la chanson française ». Et ils ont laissé une empreinte indélébile. Ils ont laissé l'empreinte indélébile de leur talent au vaste répertoire de la chanson et continuent à façonner la pop d'aujourd'hui. Il y a 15 jours, avec Serge, nous avions abordé les origines de cette profession dans les années 20 jusqu'à une partie de son âge d'or au début des années 60. Pour cette heure de direct, on reprend les affaires. Là où on les avait laissés il y a 15 jours, c'est-à-dire à partir de la fin des années 60 et jusqu'à aujourd'hui. Bonsoir Serge.
Bonsoir cher Laurent et merci de m'inviter une nouvelle fois.
Et une fois de plus, merci d'accepter l'invitation une nouvelle fois. On va ouvrir ce deuxième volet avec l'éclectisme à la française qu'incarnait Michel Colombier. Michel Colombier qui incarnait l'éclectisme. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier, Michel Colombier, pour marquer de son sceau la deuxième partie des années 60 ?
Il est clair et net que Colombier avait une volonté, c'était de fusionner toutes les musiques pop, jazz, symphonique. Il était un grand musicien, il avait un père qui était un immense musicien également, qui l'a vraiment aidé dans son parcours pour être ce qu'il est devenu. Il faut dire aussi que le père de Michel, musicien donc lui-même, était très sévère avec son fils et tout les opposera finalement, parce que autant le père ne reconnaissait que le langage classique, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fils, lui, ne voulait aucune barrière entre les musiques. Il voulait tout fusionner, ce qu'il a vraiment fait au fil de ses plusieurs décennies de carrière. Voilà. Donc, Michel Colombier, c'est quoi ? C'est ses arrangements et ses compositions pour Gainsbourg. C'est aussi des musiques de films. Par exemple, L'Héritier, un flic, L'Alpagueur, ou alors d'ailleurs un film dont il a réalisé la musique pour Jacques Demy, c'était le film Une chambre en ville, qui a été un des rares films de Demy que Michel Legrand n'a pas composé. Il a aussi arrangé énormément pour des chanteurs comme Barbara, L'Aigle Noir, le fameux album L'Aigle Noir, c'est Michel Colombier qui l'a arrangé. Alors on connaît tous aussi pour Gainsbourg, je reviens à Gainsbourg, Requiem pour un con, qu'il a composé avec Gainsbourg. C'est une musique qui a vraiment été très remarquée dans le film Le Pacha.
Et qui va annoncer bien avant le rap.
C'est vrai, absolument. Il a été très, très précurseur du rap avec ce morceau. Alors, il y a une belle musique aussi qu'il a composée avec Gainsbourg, Michel Colombier, c'était Elisa, la fameuse chanson Elisa. Eh bien, c'est également Colombier qui en a écrit la musique. Et c'était au départ une musique écrite pour le film qui s'appelait L'Horizon. Et puis, je sais que tu vas passer un morceau qui s'appelle Psyché Rock, de la musique donc électroacoustique. Michel Colombier, en 1967, participe à sa première expérience pour un ballet à Bruxelles, en 1967, et c'est en compagnie de Pierre Henry, l'un des pères de la musique électroacoustique, qu'il compose quatre jerks électroniques, dont le fameux Psyché Rock, qui était destiné en fait au ballet de Maurice Béjart, qui s'appelait Messe pour le temps présent. Voilà, donc voilà un peu comment a démarré la carrière pour le ballet, parce que en fait, un peu plus tard, Michel Colombier a également écrit d'autres musiques de ballet, entre autres à l'Opéra de Paris, mais aussi à New York. Voilà. Ouais.
Psyché Rock, un morceau de 1967, extrait de Messe pour le temps présent, c'était Pierre Henry avec des arrangements. Cette fulgurance de Michel Colombier pour une commande de Maurice Béjart. Et donc bien avant l'heure, on avait évoqué l'aspect avant-gardiste des arrangeurs et des chefs d'orchestre, surtout des arrangeurs. Là, on en a un excellent exemple.
Complètement. Et d'ailleurs, ces jerks vont intéresser un peu plus tard, à la fin des années 90, des musiciens de la scène électronique, et ils vont être remixés, ces morceaux, dont celui qu'on vient d'écouter, Psyché Rock, par de très nombreux DJ, comme par exemple le dénommé Fatboy Slim.
Ouais, DJ anglais avec une grosse réputation internationale.
Voilà, et donc finalement on voit que Colombier, donc près de presque 30 ans avant, avait donc déjà lancé cette mode qui va faire fureur à la fin des années 90. C'est incroyable, mais c'est vrai.
Oui, c'est incroyable, et pourtant, ouais. Peu de gens connaissent son nom.
Ah ben, complètement. Alors là, d'ailleurs, lui-même disait « Moi, mon nom, c'est pas grave si on le connaît pas. Le principal, c'est qu'on aime ma musique. Oui, » Il était convaincu qu'il ne serait jamais connu vraiment, et que donc, peu importe, l'essentiel, c'était que l'on apprécie ses musiques.
Ça peut aussi expliquer la longévité des carrières artistiques des arrangeurs, c'est-à-dire qu'ils sont à l'abri des lumières du show business qui sont.
C'est vrai. C'est-à-dire que
le monde du spectacle est impitoyable.
Mais oui, parce qu'effectivement, tu as raison. Finalement, si le nom de tel ou tel n'est pas bien perçu à un moment donné, effectivement, après, il ne sera plus jamais bien perçu, ou rarissimement. Effectivement, il vaut mieux rester dans l'ombre et faire diverses choses, comme lui l'a fait, Michel Colombier, explorer tous les domaines, le pop, le jazz, le symphonique, il a vraiment tout exploré. Et c'est vrai que bon, il y a des endroits où il n'a peut-être pas été parfait, il le dit lui-même, mais le plus souvent, ce qu'il a amené, c'est effectivement des choses que d'autres n'avaient jamais amenées. Et il a eu un superbe album en 1970-71, qui a été l'album Wings. Il a eu la chance d'aller aux États-Unis à la fin des années 60 avec Petula Clark, qui l'accompagnait. Il était devenu son directeur musical. Et Petula Clark l'a présenté ce jour-là à celui qui réalisait les émissions là où elle devait passer. Petula Clark, c'est le trompettiste très célèbre qui s'appelle Herb Alpert, qui a, dans les années 60, fait un tabac avec plein de disques où il y avait Tijuana Taxi, La Petite Puce. Il avait même repris Et maintenant de Gilbert Bécaud avec sa trompette et son Tijuana Brass. Ça avait été vraiment, pour ceux qui connaissent l'époque des années 60, d'innombrables tubes qu'avec son style trompette et Tijuana, il avait instauré. Et donc, il avait aussi créé le célèbre marque de disque avec un frère qui s'appelait AM. La marque AM, c'est Alpert et Moss. Et donc, Herb Alpert a proposé à Michel Colombier, en découvrant son talent quand il est allé aux États-Unis pour accompagner Petula Clark, il lui a proposé à Colombier, ce qui est assez rarissime finalement, de faire un disque tout entier avec ce que Colombier voulait, et comme musique, et comme musicien. Un nombre de musiciens totalement illimité, il y en avait plus de 100 finalement. Colombier au départ a eu peur, parce que comme il le dit, la liberté n'est pas forcément toujours le mieux. C'est-à-dire que lui, il était libre. Alpert lui avait dit « Faites ce que vous voulez ». Et ce n'est pas facile, finalement, ça.
Et il n'y a pas de liberté sans contrainte, disait Michel
Legrand.
Voilà,
mais bravo. C'est exactement ce que dit Michel Legrand. Il n'y a pas de liberté sans contrainte. Il y a aussi Jean-Claude Petit qui dit la même chose. Quand il avait écrit les arrangements pour Julien Clerc, il disait la même chose. Il n'y a pas de liberté sans un minimum de contrainte. Bon, on a l'impression qu'on est libre quand on a tout ouvert. Non. Et donc, finalement, Colombier a mis plusieurs mois à trouver le concept, qui est donc cet album Wings, qui réunit plus de 100 musiciens, que de ses compositions, dont une a été hyper connue par tous les Français, c'est Emmanuel. Emmanuel, ça a été le générique d'Antenne 2, avec les petits volumes volants de Folon. Je pense que beaucoup se rappellent de cette musique. Eh bien, Emmanuel était dans ce disque Wings que lui a permis d'enregistrer Herb Alpert au début des années 70. Donc voilà. Voilà cette histoire de Michel Colombier, cet album qui a été formidable. Alors après, Colombier, il a travaillé. Il est resté en France jusqu'en 1975 et puis il a trouvé que s'il voulait progresser, il fallait qu'il parte aux États-Unis, ce qu'il a fait. Et là, il a accompagné, il a travaillé avec les plus grands du métier, hein, aux États-Unis. avec Barbara Streisand, bien sûr, avec Madonna aussi. Et donc, ça a été quand même une carrière époustouflante qu'a pu mener Colombier aux États-Unis. Il y a eu Supertramp, il y a eu Herbie Hancock. Enfin, il a vraiment été demandé par tous les grands musiciens américains. Il a écrit des musiques de films là-bas aussi, comme Soleil de nuit, comme Golden Child. Et plus récemment, malheureusement, Colombier est mort en 2004, une maladie grave. Mais avant de décéder, il avait travaillé pour l'album Talkie-Walkie du groupe français R. Et là, c'était également extraordinairement bien fait. Donc voilà, Colombier, c'est une carrière incroyable sur plusieurs décennies. Malheureusement, il est mort très jeune, il n'avait que 65 ans. Il est mort en 2004 aux États-Unis.
Ouais, un cas à part, une fois de plus, et c'est pareil pour R, pour avoir écouté R.
Oui.
La filiation aussi avec Vanille, avec toute cette culture des arrangeurs, elle paraît évidente.
Tout à fait.
Et R aussi donne une expression moderne à cette tradition de la chanson française. Même si ça nous paraît, les œuvres de Colombier ou de Vanille paraissent encore extrêmement modernes aujourd'hui.
Je suis entièrement d'accord.
On va passer à un autre grand nom.
Lequel? C'est une surprise.
Peut-être un des plus grands.
Oui. La grande surprise.
Un qui a imprégné le marché américain, assez tôt, c'est Michel Legrand.
Ah, évidemment. Alors Michel Legrand, malheureusement, disparu il n'y a pas très longtemps,
début d'année.
En fin du mois de janvier 2019. Michel Legrand, c'est impressionnant tout ce qu'il a donné à la chanson, au film, aux comédies musicales, aux symphoniques, au jazz. Il a vraiment tout balayé pendant plusieurs décennies. Il a commencé dans les années 50. Alors, puisqu'on parle plus précisément des arrangements, Michel Legrand a beaucoup arrangé dans les années 50. Dans les années 50, après, il s'est tourné vers le film. Mais la première décennie de sa grande carrière, c'est-à-dire les années 50, il les a consacrées à l'arrangement. Alors, il a arrangé pour Juliette Gréco, pour Jacques Brel, pour Maurice Chevalier, pour Zizi Jeanmaire, vraiment tout le panel de ce qu'on peut imaginer comme grands artistes dans ces années 50. Puis ensuite, il s'ennuyait, parce que c'est comme ça. Michel Legrand est un homme de décennie, on va dire. La première décennie des arrangements, à la fin de la décennie, il s'est dit, moi, j'ai envie de changer de cap, d'autant que la nouvelle vague des cinéastes arrivait. Et c'est avec ces gens-là, comme Jean-Luc Godard, comme Claude Chabrol, qu'il va pouvoir s'aventurer dans le métier de compositeur pour le cinéma. Très vite, Jacques Demy va arriver dans l'histoire, et avec Jacques Demy, il va écrire les fameuses comédies que l'on connaît tous, Parapluie de Cherbourg, Demoiselle de Rochefort, Peau d'âne. Donc finalement, Michel Legrand, en décennie 60, ça c'est les années 60, il explose et il donne le meilleur de lui-même avec ses réalisations phénoménales qu'il entreprend avec sa moitié, on va dire, Jacques Demy. Voilà.
Là encore, on est sur une affaire de duo.
Mais oui, absolument. Mais c'est vrai. Et ensuite, alors, parce que je sais ce que tu as programmé. tu as programmé une chanson qui s'appelle « Les moulins de mon cœur », juste après, donc, composée par Michel Legrand pour la musique. Et cette musique, c'est aux États-Unis qu'il va l'écrire. Parce qu'en fait, en 1967, c'est pareil, nouvelle rupture pour Michel Legrand. Il désire partir et voir ailleurs. Et donc, il part à Hollywood. Et un des premiers films qu'il va écrire là-bas va être celle de l'affaire Thomas Crown, avec la chanson donc, « The Windmills of Your Mind », c'est-à-dire « Les moulins de mon cœur », Oscar de la meilleure chanson originale. Un petit détail, une petite anecdote concernant « Les moulins de mon cœur », parce que lui, il l'a chanté très vite quand en 1969, il l'enregistre en France, en fait, de retour en France. Il ne va pas rester très longtemps, finalement, aux États-Unis. Deux ans après, il rentre en France, en 1969, et c'est là qu'il enregistre la version française de la chanson « The Windmills of Your Mind », c'est-à-dire « Les moulins de mon cœur ». Mais on pourrait croire que c'est lui qui est un des plus grands arrangeurs français, pour ne pas dire mondiaux, qui a arrangé sa chanson pour lui-même, quand il va la chanter. Eh bien, pas du tout. Pour se faire surprendre, comme il dit, comme il me l'a dit, il a demandé à Christian Chevalier, un des autres grands maîtres de l'arrangement en France, de lui écrire l'arrangement pour cette chanson « Les moulins de mon cœur ». Et je peux vous dire que Christian Chevalier, que j'ai bien connu aussi, était un petit peu étonné qu'un monstre comme de création qu'était Michel Legrand lui demande à lui, Christian Chevalier, bien qu'il se connaissait, de d'écrire la partition arrangée de cette chanson « Les moulins de mon cœur ». Et en fait, oui, Michel Legrand était sûr de lui, il voulait être étonné par quelqu'un d'autre pour ne pas rester dans ses schémas à lui.
Oui, ramener de la nouveauté, parce qu'il était de tous les talents, voilà. Legrand, incontestablement.
Et donc, Chevalier a donc, c'est ce qu'il explique dans son chapitre, dans le livre, il explique bien qu'au départ, Michel Legrand traitait cette musique, Les Moulins de mon cœur, assez vite. C'était traité assez vite. Et pour surprendre Michel Legrand, justement, il l'a arrangé de façon avec un tempo beaucoup plus lent. Ce qui a étonné Michel Legrand, mais qu'il a accepté volontiers. Et d'ailleurs, quand les musiciens, lors de la répétition, parce que tout se faisait en direct, hein, déjà encore à cette époque, quand Michel Legrand, avec les musiciens, ont chanté Les Moulins de mon cœur, avant de commencer vraiment à enregistrer, il y a eu des répétitions sur le moment, juste quelques minutes avant. Et Michel Legrand a été vraiment surpris, déjà par l'introduction qu'avait écrite Christian Chevalier pour Michel Legrand. Il est monté sur le pupitre, Michel Legrand, et il a embrassé Christian Chevalier, ce qui a, pour lui était phénoménal, pour Christian, hein, d'avoir cet hommage, finalement, du maître Michel Legrand.
Du maître à l'élève.
C'est pas l'élève, c'est non, pas du tout. Non, non, c'était quelqu'un qu'il connaissait bien. Ils se connaissaient parfaitement, mais... Bon, la réputation de Michel Legrand était déjà hors norme, mais celle de Christian Chevalier l'était aussi, mais de façon dans l'ombre, malheureusement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu l'aura dans le monde qu'a eu Michel Legrand.
Son rôle d'interprète, d'ailleurs, dans l'aura de Michel Legrand a beaucoup, sans doute beaucoup compté. C'est un des rares arrangeurs qui interprète et chanteur de ses propres compositions.
Tout à fait. Il y en a eu d'autres, mais enfin, c'est un des principaux, effectivement. Voilà. Alors, je suppose que tu veux qu'on écoute Les Moulins de mon cœur.
Et tu supposes bien.
Voilà.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goélands sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton âme l'absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Michel Legrand, les moulins de mon cœur.
Arrangement avec, Christian Chevalier.
Arrangement Christian Chevalier qui va ralentir un peu.
Oui. Donc composition de Michel Legrand, arrangement de Christian Chevalier. Alors il y a une différence majeure entre les deux au niveau formation.
Parce qu'on avait évoqué ce qui est un parcours idéal pour être arrangeur.
Voilà, la dernière fois on avait évoqué cela. Et alors autant Michel Legrand est bardé de diplômes du Conservatoire national de musique supérieure de Paris, autant Christian Chevalier n'a jamais été quasiment nulle part. Tout est inné chez lui, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, des musiciens qui ont essayé de décrypter, par exemple, l'arrangement que l'on vient d'écouter, et notamment l'introduction de cette chanson. Donc, des musiciens qui sont, par exemple, Pierre Adenauld, qui a un beau chapitre dans ce livre sur les arrangeurs de la chanson française, a essayé de comprendre la structure de l'introduction. Il m'a dit, j'y suis arrivé, mais c'est d'une complexité folle. Alors, je le répète, que Christian Chevalier est un autodidacte. C'est-à-dire qu'il avait des capacités d'écrire des choses très compliquées alors qu'il n'avait jamais rien appris de didactique dans les écoles, les conservatoires et autres.
Mais ils ont inventé un langage qui ne s'apprend pas au conservatoire.
Voilà, exactement, exactement. D'autant qu'au départ, les arrangeurs, bon, ben, c'était des musiciens XY, il n'y avait pas de classe d'arrangement dans les années 40, 50. Hein. Ça n'existait pas.
Et puis, alors Michel Legrand, on aurait pu en parler aussi avec Alain Gauraguer.
Oui.
Pour l'anecdote, il a ramené, parce qu'on parlait des arrangeurs qui ont ramené
oui.
la musique américaine en parlant
oui.
du jazz,
oui.
il ramène aussi le rock'n'roll avec
oui.
ses comparses Boris Vian et Henri Salvador.
Tout à fait, parce que Michel Legrand était parti aux États-Unis pour accompagner Maurice Chevalier, alors qu'il était très jeune, hein, je le répète, Michel Legrand devait avoir 23, 24, 25 ans en 1956. En rentrant de New York où il avait accompagné Maurice Chevalier, Michel Legrand ramène des rock'n'roll qui commençaient à débuter là-bas, avec notamment ceux de Bill Haley et son fameux Rock Around the Clock. En rentrant donc de New York, il s'est dit avec son directeur artistique, donc Michel Legrand, qu'il serait pas mal d'écrire peut-être comme ça, pour s'amuser, quelques rock'n'roll. Et donc Michel Legrand, qui était très ami avec Boris Vian et avec Henri Salvador, est allé les voir et leur a proposé d'enregistrer un disque de rock'n'roll. Bon, c'est vrai que Salvador était peut-être un peu réticent, mais il a finalement accepté d'enregistrer ces quatre rock'n'roll, dont les titres, par exemple, c'est Rock and Roll Mops ou Va te faire cuire un œuf, man. Vous voyez,
oui, ça ressemble à une parodie ou un pastiche,
oui,
en tout cas.
Mais tout à fait. Et donc, finalement, ils ont enregistré ce 45 tours assez unique, mais ils ont tous les trois, Henri Salvador, Boris Vian et Michel Legrand, pris des pseudonymes. Alors, Henri Salvador s'est appelé Henry Cording, Boris Vian a pris le pseudonyme de Vernon Sinclair et Michel Legrand s'est appelé Mick Bike. Alors là, c'est compliqué, hein, parce qu'en fait, Michel Legrand s'était appelé pour un autre disque avant Big Mike. Et donc, c'est un anagramme déjà du pseudonyme Big Mike pour que ça devienne Mick Bike. C'est compliqué, mais donc finalement, et ce disque a eu beaucoup de succès.
Le public a pris ça très au sérieux.
Mais bien sûr, et donc ça s'est vendu par milliers de disques. Et au départ, c'était pas du tout pris avec cette optique-là. C'était vraiment pour s'amuser, faire un disque de rock à l'époque où le rock débutait aux États-Unis. Voilà.
C'est quand même une anecdote qui est très intéressante.
Absolument, absolument.
On va passer à un autre grand, hein, que tu aimais beaucoup aussi. Enfin, il s'agit de Jean-Claude Petit.
Oh ben c'est un monstre.
Mille et une vies, lui aussi. Hein.
Mille et une vies, c'est ce que j'ai mis comme sous-titre dans son chapitre. Et je peux le remercier d'autant plus que c'est un peu, j'allais dire, grâce à lui que ce livre est né, parce qu'il m'a toujours aidé, il m'a coaché, comme on dit, il m'a poussé. Régulièrement, il m'appelait depuis des années, puisque le livre, j'ai à peu près mis 9 ans, 9-10 ans pour l'écrire. Bon, les recherches datent d'avant, mais l'écriture elle-même a mis 8, 9 à 10 ans. Et Jean-Claude Petit est parfaitement au courant de ce livre. Depuis le début, je lui avais dit que je voulais faire un livre sur les arrangeurs français. Et puis il me laissait faire. Et au fil des années, de temps en temps, il m'appelait pour me dire « Alors, ça en est où ? Ça en est où ?» Je lui dis « Ça avance, ça avance. » Oui, ça fait 10 ans, il y a 3-4 ans, il me disait « Ça fait 5 ans, tu me dis que ça avance, mais rien ne vient. »
Sur lui, ce livre n'aura peut-être pas
vu le jour. Je lui ai dit « Bon, l'année prochaine, je te promets, ça c'était en 2015, je te promets qu'il sort en 2016. » En 2016, il me rappelle, en début d'année, on se parlait au moment des vœux notamment, je lui dis « Je te promets qu'en 2017, il sera sorti. » Il m'appelle à ce moment-là, de mémoire, c'était en mai 2017, oui. Et il me dit... c'était en mai 2017. Et il me dit, bon, alors, ça y est, t'as fini, là, puisque tu m'as dit que ça sortait cette année, en 2017. Je dis, non, parce que j'ai encore quelques petits chapitres à finaliser. Il me dit, mais tu te rends compte que tu finiras jamais, que c'est un tonneau des Danaïdes, ton histoire, que c'est un bottin que tu es en train de nous écrire, ou quoi? Alors, c'est vrai, quand on voit le livre, c'est à peu près l'aspect d'un bottin, finalement, il avait raison. Et donc, il m'a fait arrêter, mais il m'a dit, tu arrêtes maintenant, ce que j'ai fait. Et donc, le livre a pu naître petit à petit, et c'est avec l'aide de la SACEM que ce livre, dont il était le président à l'époque, que ce livre a pu être finalement finalisé.
Et Jean-Claude Petit, là, on sort de l'aspect purement musical, c'est aussi un de ceux qui se sont battus pour que l'arrangeur d'une chanson puisse bénéficier d'une partie des droits d'auteur.
Complètement.
Parce que non seulement la reconnaissance n'était pas médiatique, mais elle n'était pas forcément financière.
Tout à fait. Grâce à Jean-Claude Petit et deux, trois autres, il y a une sorte de grève au début des années 70 des arrangeurs. Tout le monde n'a pas suivi, mais beaucoup. Et donc, grâce à ce combat du début des années 70, l'arrangeur a été reconnu et a pu percevoir un douzième, si l'auteur et le compositeur l'acceptent, des droits d'auteur. Ça, c'est intéressant et important pour tous les... Alors, bien sûr, tous les auteurs-compositeurs n'ont pas donné cet avantage à leurs arrangeurs, mais beaucoup l'ont fait, en tout cas une partie l'a fait, et c'est grâce à Jean-Claude Petit et deux, trois autres, comme Jean-Claude Ric d'ailleurs, je crois, dont on a parlé la dernière fois à propos d'Enrico Macias, c'était l'arrangeur d'Enrico Macias, eh bien, grâce à ce combat, eh bien, les arrangeurs ont pu, depuis donc maintenant bientôt 50 ans, puisque c'était un combat qui a débuté en début des années 70. Donc là, ça fait effectivement 48 ans.
On va revenir sur l'aspect artistique justement du travail de Jean-Claude Petit. Donc il a été, dès le milieu des années 60, chef d'orchestre et arrangeur de tous les chanteurs à la mode.
Ah oui.
Les caractéristiques des arrangements de Jean-Claude Petit, tu les définirais comment ?
Bah écoute, c'est alors d'abord la rythmique, assez nette, mais sans... Je dirais aussi l'élégance dans l'écriture des cordes, dans l'écriture donc de la rythmique. C'est pas forcé, on va dire, mais c'est très étudié. Des guitares aussi, c'est parfaitement bien huilé. Donc les cuivres moins dans le style de Jean-Claude Petit, mais il y en a aussi. Il utilise la palette entière des instruments disponibles. Mais ce que je dirais, c'est que j'ai écrit dans mon introduction, dans son chapitre, c'est que l'une de ses caractéristiques, c'est l'élégance de son écriture, franchement. Alors, il a écrit pour énormément de gens. On terminera peut-être d'en parler par Julien Clerc, puisque tu veux passer un morceau de Julien Clerc, ce que je comprends parfaitement. Il y a eu aussi Michel Sardou, Mourir de plaisir, Claude François. Alors là, avec Claude François, il y a eu d'énormes succès d'arrangeurs, comme Le Téléphone pleure, Je vais à Rio, Magnolias Forever... Une superbe chanson aussi qu'il apprécie énormément, Jean-Claude Petit, et qu'il a magnifiquement arrangé, c'est le Lac Majeur pour Mort Schumann. Et là, c'est un disque... Le Lac Majeur est dans un disque de Mort Schumann, et tout le disque est formidable, parce que c'est un parcours de plusieurs villes, et donc c'est de plusieurs villes du monde. Et donc, c'est formidable. Serge Lama aussi. Serge Lama... Jean-Claude Petit a permis à Serge Lama, et c'est ce qu'il explique, Serge Lama lui-même, il lui a permis au niveau commercial d'exploser, notamment avec Les Petites Femmes de Pigalle et Je suis malade, deux tubes extraordinaires de Serge Lama qui lui ont permis à Serge Lama d'être très connu à ce moment-là, au début des années 70. Je pourrais en citer des dizaines d'autres, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la vie de Jean-Claude Petit qui est dédiée à ce qu'il a fait avec, avec Julien Clerc. Julien Clerc débutait sa carrière en 1968. Il était comme compositeur des musiques et c'était Étienne Rodagil qui écrivait les textes. Et c'était leur début. Ils étaient tous les deux, Étienne Rodagil et Julien Clerc, étudiants en lettres. Mais Julien voulait faire de la chanson et Étienne Rodagil voulait écrire aussi des textes pour la chanson. Et il a donc magnifiquement écrit pour Julien Clerc. Et c'est Jean-Claude Petit qui est arrivé au milieu de tout cela pour façonner des arrangements phénoménaux qui ont permis d'avoir des succès extraordinaires. Un des tout premiers, c'était La Cavalerie, en 1968, donc. Puis il y a eu donc ce fameux titre que tu as envie d'écouter, qui s'appelle Ce n'est rien. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu, avec Jean-Claude Petit, Étienne Rodagil et Julien Clerc, il y a eu Le Caravanier, La Californie. Et un peu plus tard, mais là, c'était avec Jean-Loup Dabadie comme auteur, la fameuse chanson Ma préférence. Mais c'était un peu plus tard. C'était dans les années 70. Donc, Jean-Claude Petit a vraiment amené une couleur à Julien Clerc incroyable. Et c'est là où il dit qu'il voulait avoir une liberté tout en étant quand même un peu contraint par le texte. Parce que Jean-Claude Petit, comme d'autres arrangeurs d'ailleurs, se sert du texte de la chanson pour façonner son arrangement. Il s'adapte, il adapte ses couleurs instrumentales au texte. Alors il y a des choses basiques, par exemple des fois on parle, c'est pas forcément dans les chansons de Julien Clerc, quand un chanteur parle d'accordéon, des fois on entend juste derrière un accordéon, ça c'est vraiment basique de basique, mais c'est pour donner un exemple quoi. Mais donc l'arrangeur qui a une belle maturité sait s'adapter au texte des chansons, ils en ont besoin. François Robert disait pour Jacques Brel, pour Juliette Gréco, il ne pouvait pas écrire les arrangements pour ces deux monstres sacrés, sans avoir les textes des chansons qu'il avait à arranger. Ça, c'est clair. Voilà, donc, association extraordinaire entre Julien Clerc, Petit, Jean-Claude et Étienne Rodagil, et ça donne, par exemple, Ce n'est rien.
Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tirer d'air en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Ce n'est rien, c'était Julien Clerc pour cette deuxième volée d'une émission consacrée au livre de Serge Laïc sur les arrangeurs de la chanson française. On va maintenant continuer avec comme chevalier un spécialiste de l'école buissonnière.
Oui.
La personne de Jean-Claude Vanier.
Totalement autodidacte, self-made man, comme on dit. Donc, comme Christian Chevalier, effectivement, à l'inverse de Jean-Claude Petit et Michel Legrand, tous les deux bardés de diplômes. Donc, vous voyez, tout est possible. Là, on a abordé des gens parfaitement diplômés de la musique et d'autres qui n'ont jamais été dans une école de musique, comme Jean-Claude Vanier, et qui pourtant, je l'ai dit, je l'ai appelé dans mon livre, le magicien de la chanson française, parce que lui, vraiment, alors lui, il a accompagné des tubes éternels de la chanson de variété française. Par exemple, pour Johnny Hallyday, Que je t'aime, Michel Polnareff, Tous les bateaux, tous les oiseaux, c'est excellemment arrangé. Sylvie Vartan, La Maritza, tous les gens qui aiment la chanson connaissent ça. Jane Birkin, Didouda, un extraordinaire arrangement aussi pour Claude Nougaro, la chanson Danser sur moi, mais c'est phénoménal. Donc tous ces arrangements signés de la patte de Jean-Claude Vanier. Mais Jean-Claude Vanier, c'est bien sûr aussi des compositions, dont une qui est devenue culte au fil des décennies, alors qu'au départ c'était le beat complet, c'est l'album Melody Nelson. Au départ, cet album, sorti je crois en 1971, oui, c'est sûr, c'est en 1971, c'était un album que personne n'avait écouté, acheté, c'était resté complètement dans l'ombre.
13 000 exemplaires vendus, voilà, pour une œuvre de Gainsbourg qui était attendue à cette période-là,
voilà.
C'est pas beaucoup.
C'était rien du tout.
Justement, les compositeurs et les arrangeurs frappent là où on les attend jamais.
Et oui, et donc l'histoire de Melody Nelson, elle est assez extraordinaire, parce qu'en fait, c'est une romance entre Melody Nelson, une jeune fille anglaise, et un quadragénaire. C'est, bon, l'histoire de départ, c'est ça. C'est dans la tête de Gainsbourg que cette histoire était née en 1969, mais il n'avait rien d'autre que le titre de l'album. Il n'avait encore rien écrit, mais il voulait que cet album s'appelle Melody Nelson. Bon, il était à l'époque en collaboration avec Jean-Claude Vanier comme arrangeur. Gainsbourg avait eu précédemment Alain Goraguer, dont on va parler pour terminer l'émission. Ensuite, il y a eu Michel Colombier, dont on a parlé aussi tout à l'heure, Elisa, Requiem pour un con. Le troisième arrangeur connu français qui a collaboré avec Gainsbourg était Jean-Claude Vanier. Et donc, Jean-Claude Vanier, qui travaillait à l'époque, fin des années 60 avec Gainsbourg, a écrit certaines musiques pour ce Melody Nelson. De son côté, Gainsbourg va en écrire d'autres. Puis un peu plus tard, les paroles viendront, mais beaucoup plus tard, en 1971, donc 2 ans après. D'abord, c'est la musique qui a été créée par Vanier et Gainsbourg, ou Gainsbourg et Vanier, comme vous voudrez. La première chose qu'a enregistrée Jean-Claude Vanier est la fameuse rythmique que l'on entend très bien, notamment dans
la balade de Melody Nelson.
Voilà, on entend très bien la caractéristique rythmique, notamment la basse, la guitare basse dans cet album extraordinaire. En rentrant à Paris, après l'enregistrement de la rythmique à Londres, donc Vanier va enregistrer les cordes, ça va demander un certain temps, puis des chœurs, notamment les chœurs des Jeunesses Musicales de France, que l'on entend sur le morceau Cargo Culte, qui est dans cet album mythique. Et au bout d'un certain temps, finalement, après plusieurs mois, Gainsbourg va enfin écrire les textes. Et c'était en 71, et le disque va sortir peu de temps après. Mais je le répète, échec total. Hein. Alors que c'est finalement le premier album concept de Serge Gainsbourg, qui est maintenant considéré comme l'album absolument mythique. Événement que finalement, malheureusement, Gainsbourg ne connaîtra pas, puisque lui va disparaître, Gainsbourg, en 1991, et que l'album va devenir mythique, surtout au début des années 2000. Voilà.
Et là encore, c'est peut-être aussi cette caution de l'avant-garde des compositeurs et des arrangeurs qui sortent un album en 71. Donc la musique, elle a changé. On est sur une charnière en plus.
Exactement.
C'est à la fin de la décennie précédente, les années 60, et puis la nouvelle 70.
Oui.
Avec cet objet un peu insolite.
Totalement insolite.
Plutôt basé sur les climats.
Oui, c'est le climat extraordinaire qu'ont créé Gainsbourg et Vanier. Effectivement, mais ça n'a pas été reçu 5 sur 5 à l'époque, hein. Pas du tout même.
Quand on voit l'influence qu'il a sur des artistes comme Beck et toute la scène internationale, c'est
totalement
absolument
incroyable. C'est incroyable, c'est phénoménal. Alors on va l'écouter. Tu as choisi quoi comme morceau?
On va l'écouter comme si c'était la première fois.
Voilà.
Et j'ai choisi la ballade de Melody Nelson.
Superbe. Alors ça, c'est la musique et de Vanier, les paroles de Gainsbourg, évidemment.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, que ça.
Melody Nelson.
Une adorable garçonne et si délicieux enfant. Que je n'ai que n'ai qu'un instant. Oh, ma mélodie, ma
mélodie, Nelson.
Aimable petite conne, tu étais à condition sine qua non.
Vous avez tous reconnu cette association de bienfaiteurs qui était Gainsbourg et Jean-Claude Vanier, un son bien en avance en 1971 pour un album concept.
Oui.
Clin d'œil évident à Vladimir Nabokov, cette histoire de Lolita et d'un quadragénaire.
Et
voilà. Puis cet aspect un peu subversif de ce dandy élégant et décadent qui était Serge Gainsbourg. On va faire un grand saut en avant. Alors, il y a une question que je voulais te poser aussi, Serge.
Oui, allons-y.
Dans les années 80, le métier d'arrangeur va un peu se perdre.
Oui.
Qu'est-ce qui va générer ce phénomène?
Il se fait qu'à la fin des années 70, les musiciens, tous très capables, les grands musiciens qui étaient en studio, on va dire, tous ceux qui enregistraient sous la conduite de chefs d'orchestre, comme Petit, comme Vanier et quelques autres, hein, peu importe, tous les autres d'ailleurs. Certains musiciens en avaient un peu assez de ne pas être, ne pas pouvoir montrer leur créativité lorsqu'ils jouaient. Ils avaient des partitions écrites à la note près, à la virgule près, je dirais en plaisantant. Et donc, il n'était pas question pour les musiciens qui enregistraient en séance de modifier quoi que ce soit de la partition amenée par l'arrangeur en studio. D'ailleurs, souvent, à l'époque, le chanteur ne savait même pas ce qu'allait amener l'arrangeur en studio. Il s'était vu au début, par exemple, Ferret donner à Jean-Michel Defaille ses musiques. Il lui donnait une ambiance qu'il souhaitait avoir. Mais ensuite, Ferret et Defaille ne se revoyaient qu'au studio. Et c'était une découverte pour le chanteur qui avait lui-même créé sa chanson, puisque Ferret écrivait paroles et musique. Et souvent, le plus souvent, en tout cas, ce que Defaille m'a toujours dit, Jean-Michel Defaille m'a toujours dit que c'était sans problème. Ferré n'a pratiquement jamais rien voulu changer lors des enregistrements. Lors de la séance, il découvrait les arrangements de Jean-Michel Defaille. Il n'a jamais demandé, sauf peut-être deux, trois bricoles, parce qu'il faut le rappeler que Ferré était musicien, donc il savait, il connaissait la chanson, c'est le cas de le dire. Eh bien, il ne demandait rien comme changement à Jean-Michel Defaille. Donc, on revient à ta question, à savoir pourquoi à la fin des années 70, les choses changent. Effectivement, beaucoup de musiciens voulaient être créatifs lors des enregistrements. Et donc, ça a été ainsi à partir de 77, 78, 79, notamment avec Bernard Lavillier, avec Francis Cabrel. Ces gens-là incitaient finalement leur équipe de musiciens à être créatifs lors des enregistrements. Alors, c'est sûr que ça durait beaucoup plus longuement, les enregistrements, que lorsqu'il y avait les arrangeurs classiques qui arrivaient avec leurs partitions. Tout était écrit à la note près, et donc il y avait en 3 heures, on faisait 3-4 chansons. Quand on a pris la méthode de création sur le moment, on va dire, c'est vrai que c'était beaucoup plus long. Michel Berger aussi, c'était comme ça. Il avait une équipe de musiciens, Yannick Top, Serge Piratonner et quelques autres, qui ont fait que les créations se faisaient ensemble. L'arrangement était fait ensemble. Alors, bien sûr, s'il y avait une partie de violon, une partie de cordes, il y avait encore un arrangeur qui était Michel Bernolc pour Michel Berger, qui s'y mettait et qui apportait en finale une enveloppe de violon complémentaire, mais pas dans toutes les chansons de Berger. En tout cas, c'est comme ça. Donc finalement, fin des années 70, début des années 80, une sorte de petite révolution, l'arrangeur traditionnel va pouvoir continuer à officier avec ses partitions toutes prêtes, mais beaucoup de chanteurs préfèrent avoir des groupes de musiciens, des groupes, voilà, c'était l'époque, qui façonnaient les musiques en même temps que l'enregistrement, finalement. Il n'y a plus l'aspect obligé de jouer exactement ce qui est écrit sur la partition de l'arrangeur.
Et puis alors là, on va faire un grand saut en avant, parce que le temps passe vite. Et...
Oui, c'est vrai, il est déjà 49, 20h49.
Et avec la nouvelle génération.
C'est pour rappeler que nous sommes en direct.
Avec la nouvelle génération, j'ai choisi Fred Palleb. On va parler des enfants du numérique.
Tu as parfaitement raison.
Évoquer évidemment les enfants du numérique, puisque tu parlais de travailler ensemble, voilà. De fournir l'émotion ensemble. Voilà. Les enfants du numérique peuvent travailler seuls, oui. Et se charger de la composition, de l'arrangement, des paroles, enfin absolument tout. Ils sont, oui, en autonomie complète.
Oui.
J'ai choisi Fred Palleb.
Mais Fred Palleb a un orchestre quand même.
Oui, oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Je trouve qu'il fait la synthèse justement de cet héritage.
C'est vrai.
De la chanson française, de l'orchestration et de l'arrangement.
Tout à fait.
Mais en lui donnant une expression extrêmement moderne.
Voilà. Il faut dire qu'il c'est un bassiste de premier plan, Fred Palleb. Donc
il aussi a un très beau pédigré. Hein.
Ah bah oui, bassiste de premier plan. Il est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Paris en 2000. Il a été lauréat du concours national de jazz à la Défense. Donc Fred Palleb a été très titré, on va dire. En parallèle de ses études, eh bien, il a réuni des musiciens qui étaient souvent des gens avec qui il était au conservatoire, et il a créé cet orchestre qui fonctionne toujours et qui s'appelle le Sacre du Tympan, pour rappeler...
Le clin d'œil évident à Stravinsky.
Voilà, exactement. Et donc, lui aussi, son objectif, comme avait fait Michel Colombier, mais bien avant finalement, c'était de fusionner classique, pop, rock, jazz. Donc lui, c'était un maître de la fusion de toutes les musiques aussi. Et c'est ce qu'il continue de faire.
C'est un Colombier des temps modernes. Enfin, moi, j'avais
bravo,
un peu défini comme ça.
C'est bien, c'est exactement ça. C'est le Colombier des temps modernes. Et alors, curieusement, ce Colombier des temps modernes, il a été fasciné dans ses jeunes années, mais enfin, il est très jeune, hein, Fred. Il est né, je vais le dire à l'antenne, c'est pas grave, en 1973. Donc
il est très très jeune.
C'est un bébé, comme je dis. Bon, et donc Fred a eu vraiment une adoration pour un des compositeurs des années 50, 60, 70, qui s'appelle André Pop. André Pop, c'est lui qui a créé la fameuse histoire de Piccolo Saxo et compagnie que beaucoup d'enfants ont connu et qui ont incité beaucoup de jeunes musiciens en herbe à continuer leurs études grâce à ce fameux concept que André Pop avait trouvé avec un de ses collègues. Le nom de m'échappe. Ah si, voilà, ça revient, c'est Jean Broussol, qui était d'ailleurs un des compagnons de la chanson, en passant. Et donc, Jean Broussol et André Pop ont créé Piccolo Saxo, et ça a été, pour Jean-Claude Petit, par exemple, le détonateur pour devenir musicien. Alors, André Pop, c'est plein de choses. Hein.
André Pop, pour moi, excuse-moi de te couper, Serge, pour moi, c'est l'ADN de la nouvelle génération de cette profession-là.
Mais complètement, c'est
on
curieux.
On le retrouve partout.
Mais parce que, en fait, il était déjà très atypique dans les années 50 et 60. Pour lui, c'était pas Beethoven, Mozart, la base, c'était les musiciens beaucoup plus récents. Et donc, il a pris comme culte, qu'il avait comme culture les musiciens du XXe siècle, en tout cas. Et donc, ça lui a permis d'écrire des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que ses collègues écrivaient. Et c'est resté, donc, pour les suivants, notamment Fred Palem, qui a été extraordinairement étonné de la culture moderne, finalement, d'André Pop, qui était pourtant un ancien. Il est décédé déjà il y a quelques années, le pauvre André, à 90 ans, si ma mémoire est bonne. Et Fred a épousé cette culture, et il en a d'ailleurs écrit, il s'est servi des musiques composées par André Pop pour faire des albums au début de sa carrière, de son concept, le Sacre du Tympan. Et notamment, moi, j'adore ce morceau que tu as choisi, composé par André Pop, interprété par Fred Palem et son équipe. Ça donne une chose extraordinaire. Ça s'appelle « Bloody Serenade ». Je te remercie d'avoir choisi ce morceau que j'adore. J'adore ce morceau de André Pop, interprété par Fred Palem et son Sacre du Tympan, qui viennent de sortir un nouvel album qui est phénoménal aussi, qui s'appelle L'Odyssée, avec des compositions personnelles de Fred Palem, là. Et pour la première fois, il y a des cordes dans cet album du Sacre du Tympan, qui s'appelle donc L'Odyssée. Et comme l'a dit Fred, c'est un album plutôt psychédélique. Voilà. Mais c'est extraordinaire, il faut l'écouter. Il faut l'acquérir.
C'est un coup de cœur commun.
Ah oui,
ça traverse toutes les générations.
Ah oui, c'est extraordinaire cet album.
À la fois ancien et nouveau.
Exactement. Bah, c'est ce qu'a voulu faire Fred au départ en s'imprégnant du talent et des compositions d'André Pop, évidemment.
Voilà. Et on va finir, curieux paradoxe, on va finir ce second volet de l'émission consacrée à ton livre Les Arrangeurs de la Chanson Française avec le doyen, puisque justement on parlait des jeunes générations, des gens qui incarnent cette profession aujourd'hui, donc Fred Palem en est un. Et Alain Goringer a travaillé il n'y a pas très longtemps avec Abdelmalik.
Oui, c'est vraiment le doyen. Il y avait Michel Legrand qui était un des doyens. Malheureusement, Michel est décédé. Michel Legrand est décédé fin janvier dernier. Et donc, il y a d'autres personnes. Il y a un autre arrangeur qui est dans le livre, qui est encore plus âgé qu'Alain Goringer et Michel Legrand. C'est Gérard Poncet, mais qui est moins connu. Mais je tiens à le citer, parce que c'est un monsieur qui a fait beaucoup, et notamment pour l'électronique, parce que Gérard Poncet a non seulement écrit des arrangements pour beaucoup de gens, surtout et presque uniquement dans les années 60, mais c'est lui qui a créé Freevox. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, c'est un préampli qui a fait fureur et qui fait toujours la joie des collectionneurs de matériel électronique. Et c'est donc Freevox a été conçu, cet appareil, par l'électronicien et musicien qui était et qui est toujours Gérard Poncet. On va même aller donner son âge de mémoire. Et si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, il a 90 ans et bientôt 91, et il va formidablement bien. Alors, on en revient donc à Alain Goringer, qui a été celui qui a été, depuis les années 50, on va dire, sur le terrain de l'arrangement, de la composition. Tiens, un aparté, avant de parler de Abdelmalik, dont je sais que tu veux que nous parlions.
Surtout du travail qu'il a fait avec Alain Goringer, et puis de ce mélange de générations.
Mais bien sûr, encore une fois, tu as raison de le dire. Anecdotiquement, c'est Alain Goringer qui a écrit la musique de Gym Tonic, une émission des années 80, une émission qui était pour la gymnastique et qu'on voyait à la télévision. Mais l'intérêt de parler de ça, c'est que c'est devenu un indicatif pour un support musical de renseignement téléphonique. Toutou Youtou, ça te dit quelque chose?
Oui, oui.
Voilà. Et bien, c'est Alain Goringer qui a écrit cette musique. Toutou Youtou, c'était au départ, en fait, écrit pour une émission télévisée qui s'appelait Gym Tonic, le dimanche matin, si ma mémoire est bonne, dans les années 80. Voilà, on en revient maintenant au travail musical proprement dit d'Alain Goringer. Alain Goringer, c'est monstrueux. Il a fait, avec Boris Vian d'abord, un parcours. Comme je l'ai mis dans mon chapitre, j'ai appelé mon chapitre d'Alain Goringer de Boris Vian à Abdelmalik, c'est-à-dire vraiment
le grand écart.
Le grand, grand, grand écart. Et pourtant, il l'a fait.
Mais avec ce dénominateur commun qu'est Goringer.
Voilà. Exactement, Goringer et Boris Vian, c'est qui ne connaît pas, pour ceux qui aiment la chanson française, la Java des bombes atomiques, hein, c'est lui qui a écrit cette musique, et également celle de Fais-moi mal Johnny avec Magali Noël. Je pense que c'est une chanson que beaucoup d'amateurs de la chanson connaissent. Mais Goringer, c'est pas que ça, puisque ensuite, après cette période de Boris Vian, il est passé à Serge Gainsbourg. Et c'est lui qui a été l'arrangeur du premier disque de Gainsbourg, notamment avec le point sonore des Lilas, rien que ça. Mais c'est pas tout. Goringer, il a fait tous les arrangements de Jean Ferrat, sauf le premier 45 tours, pour ne pas être faux dans ce que je raconte. Mais hormis le tout premier 45 tours de Ferrat, c'est Goringer qui a fait vraiment l'ensemble de la carrière de Jean Ferrat, notamment le grand succès Potemkin, mais enfin tous les titres. C'est simple, je ne vais pas les citer, il y en a des dizaines et des dizaines. Goringer, éclectique, il a fait aussi les arrangements de Poupée de cire, Poupée de son pour France Gall, gagnante de l'Eurovision en 1965. Le Métèque, c'est aussi l'arrangement pour Moustaki de Alain Goringer. Je ne vais pas tous les citer, il y en a des dizaines et des dizaines. Et ce qui est curieux, donc, c'est que plus récemment, donc, il y a quelques années, Abdelmalik, le rappeur, slammer, a voulu vraiment rencontrer celui qui avait côtoyé tous les gens comme Brel, Gréco, Boris Vian et compagnie. Et il a voulu travailler avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, dans un disque qui était en 2008, c'est le disque qui s'appelle, l'album s'appelle Dante. Et donc, voilà, Abdelmalik était ravi. Et comme il a dit, j'en avais rêvé. C'est exactement ce que j'entendais dans sa tête quand il composait ses morceaux, Abdelmalik. Et il a réussi, le tour de force, de faire revenir Goringer dans un style qui n'était vraiment pas du tout le sien.
et forcément il y a quelque chose qui les tient. Il s'agit d'une chanson parce que c'est alors Abdelmalik, donc c'est un slameur.
Tout à fait.
Il incarne à sa manière la culture urbaine.
Tout à fait.
Et la culture urbaine aurait pu ou a en partie truster ce métier des arrangeurs et des
oui.
et des chefs d'orchestre. Ça veut dire qu'il y a un avenir pour cette profession.
Formidable, je suis très heureux.
À seul ou à plusieurs. Qu'est-ce qui manquerait d'ailleurs à la chanson si cette profession venait à disparaître, Serge?
Cette ambiance que les arrangeurs ont créée, franchement, c'est sûr qu'on peut dire qu'aujourd'hui encore, il y a de l'ambiance dans toute chanson, ça c'est clair. Mais il y en a qui continuent d'exercer, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Je ne donne pas de nom. Mais ils avaient réussi à créer vraiment une ambiance pour chacune des chansons dont ils étaient responsables de la création de ces arrangements. C'était des couturiers musicaux, comme j'ai appelé Paul Mauriat quand j'ai écrit son livre à sa demande. Je l'ai appelé le couturier musical. En fait, le livre, on l'a appelé autrement, on l'a appelé La vie en bleu, mais peu importe. Mais c'est une définition que j'aimais lui donner parce qu'il a habillé vraiment les gens comme Aznavour, par exemple. On l'a déjà dit l'autre fois, quand on écoute une chanson d'Aznavour, on n'a pas besoin d'entendre la voix d'Aznavour. Il suffit d'entendre les premières notes écrites par Mauriat, par exemple pour Je me voyais déjà, pour La Mama, pour La Bohème, par Toutes les salées, par Formi formidable. On sait déjà, en écoutant quelques mesures, ce que va chanter Aznavour. Et c'était ça, le talent formidable des arrangeurs de la chanson française, tel que je l'ai décrit dans ce livre. Alors bien sûr, il y a les toutes nouvelles générations. Ça, je ne les ai pas traités. Les toutes dernières, les toutes nouvelles, non, ça n'est pas dans le livre.
D'ici, dans les années à venir, on peut penser que c'est une profession qui va continuer à évoluer.
Mais bien sûr, sans aucun doute.
Et alors, j'ai une dernière question avant qu'on
est
un petit peu en retard, Serge. Hein.
Oui, je sais, j'ai honte. Nous avons honte tous les deux.
Tu n'as pas à avoir honte. Oui. Où est-ce qu'on peut se... Alors, ton ouvrage fait l'objet d'un deuxième tirage, d'une réédition, puisque le premier tirage est parti. Les livres sont partis comme des petits pains. Où est-ce qu'on peut se le procurer aujourd'hui?
Des petits pains au chocolat. Comme disait
Chez quel libraire et sur quelle plateforme
sur Évreux, on le trouve déjà à la librairie Gilbert Joseph. Sinon, en ligne, tout libraire peut le commander. Et là, il l'obtient dans les 2-3 jours ou 4 jours après la commande. Sinon, en ligne, il est sur la Fnac, sur Décitre, sur Amazon, sur leslibraires.fr. Enfin, il y a tous les sites en ligne qui l'ont. Voilà ce que je peux dire.
Il va être temps de te remercier une dernière fois, Serge Laïc.
Ben moi aussi, je te remercie parce que c'est extraordinaire de parler comme ça, bâton rompu.
Partager ta passion pour la musique à travers le prisme
tu l'as aussi,
des arrangeurs, je l'ai aussi, et des chefs d'orchestre. Merci aux auditeurs pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ces deux émissions qu'on a eu à la faire. Vous pouvez les retrouver en podcast sur le site de Principe Actif ou sur la page Facebook Tour de Piste, une émission musicale. La musique favorise les belles rencontres. Serge, celle-ci en est une.
Merci Laurent. Eh ben, c'était une belle rencontre pour moi aussi, hein, je peux te le dire.
On se quitte avec Abdelmalik, orchestré, arrangé par Alain Bourraguer.
C'est assez incroyable, mais c'est là.
Bonne soirée à tous. À dans 15 jours.
Merci, Laurent.
Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a rompu sans savoir pourquoi, sans savoir pour moi, je ne sais toujours pas pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend quand c'est fini. N'est-ce pas ici pourtant qu'avait élu domicile la vie? N'étions-nous pas, j'étais supposé, censé prendre soin de toi, du toi que tu as été dans cette vie où je n'ai vu que moi? Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a tenu aussi longtemps qu'on a pu, toi et moi, sans savoir pourquoi. Je parle pour moi, tu as toujours su pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours quand c'est fini. N'étions-nous pas pourtant faits l'un pour l'autre? Nous étions supposés être faits l'un par l'autre du nous sommes. Par égoïsme, j'ai dit je suis. Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On s'est battu pour je ne sais quoi sans voir qu'au fond je n'étais victime que de moi. Mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours quand c'est fini. N'était-ce pas ici qu'avaient fleuri ces cœurs? N'est-ce pas ici que nos âmes devinrent sœurs? Pourquoi ai-je lâché ta main et pris celle de la folie? Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. Planète Terre.